changer, je me mets ici. Alors bonjour à tous, je suis très content et c'est un honneur pour moi de reprêcher ici à Saint-Maur. Franchement, à chaque fois je suis joyeux, peut-être un peu stressé, mais ça ira. Non, c'est bon, je pense que ça va. Ouais. Alors, sûrement vous vous êtes dit, âgé, waouh, c'est bizarre, je connais pas où est ce livre, pourquoi est-ce qu'il va nous prêcher dessus, oh là là, j'ai jamais lu, je comprends pas, il y a des noms bizarres. Mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. J'ai étudié le livre et, en cours, et franchement, il y a tellement de choses à apprendre sur tous les petits prophètes, c'est des choses qui nous parlent actuellement. Mais avant de commencer, moi je vais aussi prier, et on va lire ensemble le passage, prions ensemble. Merci Père éternel pour ta parole qui est toujours vivante, qui nous parle par ton esprit. Et même si tu t'es adressé au peuple d'Israël il y a de cela très très longtemps, ta parole demeure vivante pour nous, et elle nous parle toujours. Et elle nous enseigne, elle nous apprend sur toi. Et nous voulons, Seigneur, nous mettre à l'écoute et en retirer des leçons pour les mettre en pratique et te faire plaisir. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors je vais lire Agé, chapitre 2, verset 1 à verset 9. Je lis dans la seconde 21. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel fut révélée par l'intermédiaire du prophète Agé. Parle au gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Shealtiel, et au grand prêtre Josué, fils de Yotsadak, et au reste du peuple. Dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui a vu ce temple dans sa gloire première? Et comment le voyez-vous maintenant? Tel qu'il est, ne paraît-il pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, déclare l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Yotsadak, grand prêtre. Fortifie-toi, peuple entier du pays, déclare l'Éternel. Et travaillez, car je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Conformément à l'engagement que j'ai conclu avec vous quand vous êtes sortis d'Égypte, mon esprit est au milieu de vous. N'ayez pas peur. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Une fois encore, et dans peu de temps, je ferai trembler le ciel et la terre, la mer et le sec. Je ferai trembler toutes les nations, les trésors de toutes les nations afflueront, et je remplirai de gloire ce temple, dit l'Éternel, le maître de l'univers. L'argent m'appartient, l'or m'appartient, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. La gloire de ce dernier temple sera plus grande que celle du premier, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Un récent sondage fait par 3000 personnes aux États-Unis présente l'état niveau théologique l'état de théologie chez les protestants évangéliques aux États-Unis. Et dans ce sondage, on peut voir différents pourcentages qui parlent de différents thèmes. Je pense que vous l'avez sûrement déjà vu sur Facebook. Et j'ai relevé 3 points intéressants par rapport à ce sondage. Premier point, c'est que 44% des protestants évangéliques aux États-Unis pensent que la plupart des gens sont bons par nature. C'est assez intéressant puisque la Bible semble nous dire le contraire. C'est assez intéressant de voir que, même surprenant, de voir que 44% des protestants évangéliques aux États-Unis pensent que les gens sont bons par nature, alors que la Bible nous enseigne qu'à partir du moment où nous avons péché, ne serait-ce qu'une seule fois, l'homme est mauvais par nature à cause du péché. Deuxième chose, seuls 51% d'entre eux croient que même le plus petit péché mérite la condamnation divine. C'est-à-dire qu'il y a 49% des protestants évangéliques aux États-Unis qui pensent que si on fait un petit péché, mais c'est pas grave, Dieu pardonne. C'est pas grave, un petit mensonge, c'est pas grave, Dieu pardonne. Et troisième point, 54% pensent qu'un individu doit, par son propre effort, contribuer à son salut. Et ça, c'est ce qui m'attriste le plus. Vous vous rendez compte, plus de la moitié, un peu plus que la moitié des protestants évangéliques aux États-Unis pensent qu'il suffit de faire des propres efforts pour gagner son salut. Or, la Bible enseigne tout le contraire. Nous sommes sauvés par grâce seulement, par l'action de Dieu seul. Et devant ces pourcentages, devant ce constat, en fait, on pourrait se demander, enfin, on pourrait se décourager devant toutes ces difficultés. On pourrait se dire, mais qu'est-ce qui se passe dans nos églises? Qu'est-ce qui se passe actuellement dans le monde protestant? Et il y a une possibilité de se décourager et de se dire, mais la tâche est trop grande, c'est pas possible. Et comment remédier à cela? Comment faire pour ne pas se décourager et pour continuer dans l'œuvre de Dieu? Et premièrement, par ce texte, Dieu nous appelle à faire un constat. Dieu t'appelle à faire un constat. Le Seigneur, par la bouche d'Agé, interpelle son peuple. Il est responsable à se rendre compte dans l'état dans lequel est le temple, un mois après la reprise des constructions. Pour nous replonger dans le contexte, rapidement, ce qu'il faut savoir, c'est que Israël est sorti d'Égypte, il y a eu l'Exode, ils sont arrivés dans la terre promise, ça c'est Josué. Il y a eu la période des rois, 1 et 2 Samuel, 1 et 2 rois. Et à la fin de la période des rois, à cause de leur péché, Dieu les a pris en exil. Et après les avoir pris en exil pendant 70 ans, Jérémie en parle, il les ramène et ils sont de retour d'exil. Jérusalem a été complètement détruite, le temple a été complètement détruit, et voilà que Dieu leur dit de reconstruire le temple. Et il y a Agé qui arrive et qui commence à annoncer un oracle de l'Éternel pour encourager le peuple à se remettre à l'œuvre, à reconstruire le temple. Et Agé, au chapitre 2, c'est la deuxième fois qu'il parle. C'est la deuxième fois qu'il s'adresse aux Israélites et il leur dit de se rendre compte dans l'état dans lequel est le temple. On veut lire ensemble les versets 1 et 3. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel fut révélée par l'intermédiaire du prophète Agé, par le gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Shealtiel, au grand prêtre Josué, fils de Yotsadak, et au reste du peuple, dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui a vu ce temple dans sa gloire première? Et comment le voyez-vous maintenant tel qu'il est? Ne paraît-il comme rien à vos yeux? Et par ces phrases, c'est comme si Dieu disait au peuple, oui, très bien, vous avez repris les constructions, très bien, vous m'avez écouté. Mais attendez, est-ce que c'était comme cela qui était mon temple auparavant? Qui était là avant que le temple soit détruit? Ah, toi, oui, toi t'étais là. Alors, à quoi est-ce que ressemble le temple maintenant? Est-ce qu'il est comme rien du tout? Est-ce que ça ne ressemble à rien, hein? C'est un constat d'échec. Un constat d'échec. Les Israélites étaient partis pour reconstruire le temple. Il ressemblait à rien. Un échec car le temple aurait dû au minimum ressembler au premier, au temple de Salomon. Ce temple glorieux avec des cèdres et des choses pas miraculeuses, mais extraordinaires, avec beaucoup d'or à l'intérieur. Mais non, il ne ressemble même pas à ce premier temple. Et c'est loin d'être le cas. Et on pourrait dresser peut-être le même constat d'échec dans nos églises au XXIe siècle. Surtout lorsqu'on voit, malheureusement, ici en France, qu'une association protestante de tradition réformée luthérienne donne la possibilité aux pasteurs de bénir les couples homosexuels dans l'église. Malheureusement, ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Et nous, nous nous conformons à ce que la Bible dit. Et elle est loin, l'époque où la majorité des chrétiens récitaient et connaissaient par cœur tous les credos de l'église. Les credos de la foi. À la question suivante, dans le même sondage, est-ce que je récite ou utilise les credos historiques dans ma vie personnelle de disciple? 70% des sondés ont dit non. Et je pense que je ferai partie de ces 70%. Le problème, c'est qu'on ne connaît plus la foi de nos ancêtres, de ceux qui nous ont précédés. Comment est-ce qu'ils vivaient leur piété personnelle jour après jour? Et on n'essaye pas de connaître ce qu'ils disaient, ce qu'ils récitaient. Je me souviens, j'ai lu quelque part qu'à l'époque de la Réforme, je croyais qu'ils connaissaient, mais vraiment... Le symbole des apôtres, c'est une succession de credos, un peu comme notre confession de foi. Et ben, la majorité des chrétiens à cette époque le connaissaient par cœur et ils pouvaient le réciter. Malheureusement, ce n'est plus le cas actuellement et j'en fais moi-même partie. À vrai dire, ce message s'adresse peut-être premièrement à moi. Et on pourrait même dresser le même constat, ce même constat d'échec dans nos églises et dans nos vies personnelles. De nos jours, malheureusement, on arrive à entendre ce genre de discours dans nos églises. Ouais, il y a une époque où ouais, on faisait énormément d'évangélisation. Dans l'église, on faisait beaucoup d'activités, on sortait, franchement, on était tout feu, tout flamme. Mais tout ça, ça remonte. Où on peut encore entendre ceci. Quand je venais de me convertir, j'étais vraiment tout feu, tout flamme. Je dévorais ma Bible jour après jour. J'évangélisais à outrance. Dès que je voyais quelqu'un, hop, je lui parlais de Jésus. J'accourais aux réunions, groupe de maison, réunion de prière. Enfin, j'étais toujours là. Et j'avais hâte d'être au dimanche. Mais maintenant, c'est différent. Et devant ces constats personnels ou de situation de l'Église, tout comme le peuple d'Israël, c'est possible qu'on se décourage. C'est possible que tu te décourages devant un constat d'échec, que tu abandonnes. La tâche est beaucoup trop grande pour moi. Remettre l'évangélisation au cœur de l'Église, trop compliqué, je suis tout seul. Remettre de l'ordre dans ma vie de piété personnelle, j'y arrive pas. J'ai toujours ces mêmes péchés qui reviennent. Et le découragement qui guettait le peuple d'Israël, là, dans le livre d'Agé, est le même danger pour nous. Et Dieu le savait très bien. Et c'est pourquoi, par Agé, il s'adresse au peuple et il leur dit, fortifie-toi, je suis avec toi. Deux fois, fortifie-toi, je suis avec toi. Dieu t'appelle à te fortifier. Dieu t'appelle à te fortifier et à te mettre à l'œuvre. Et c'est ce qu'il dit à Zorobabel. Relisons les versets 4, les versets 5 ensemble. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, déclare l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Yotsadak, grand prêtre. Fortifie-toi, peuple entier du pays, déclare l'Éternel. Et travaillez, car je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Conformément à l'engagement que j'ai conclu avec vous quand vous êtes sortis d'Égypte, mon esprit est au milieu de vous, n'ayez pas peur. Dieu dit au peuple, fortifie-toi, par trois fois, fortifie-toi, fortifie-toi, fortifie-toi. Et j'ai donc regardé dans le dictionnaire ce que ça veut dire, fortifie-toi. Et fortifie-toi, ça veut simplement dire rendre fort, plus robuste. Dans un sens figuré, ça veut dire faire persister, affermir. C'est intéressant. Fortifier, c'est affermir. Et affermir, c'est quoi? C'est rendre plus difficile à ébranler. C'est rendre plus difficile à bouger. Comme un arbre qui est fermement planté dans le sol, il est bien ferme, affermissement, ferme. Ben, quand il y a une tempête, quand il y a un ouragan, l'arbre il va peut-être bouger comme ça, mais en tout cas, son tronc et ses racines ne vont pas bouger. Il sera ferme. Et c'est ça, se fortifier. Donc, se fortifier pour nous, se fortifier pour le peuple d'Israël, ça veut dire se rendre plus difficile à ébranler, inébranlable. Et pourquoi est-ce que Dieu dit ça à Zorobabel et au peuple? Ben, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'ils se mettaient en route dans les constructions, dans les travaux, ils ont dû faire face à des problèmes, à des personnes qui étaient là et qui les empêchaient de construire le temple. Qui leur disaient non, 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 vous n'avez pas les autorisations nécessaires. Ils volaient le matériel. Et franchement, quand vous êtes en train de, je ne sais pas, construire une maison et que vous devez aller à l'administration, aller à la mairie, remplir les papiers jour après jour, et après il faut aller commander chez Leroy Merlin ou je ne sais pas, et il faut attendre que ça arrive, et après ils se trompent au niveau des commandes, et vous êtes là et vous dites « Ah, mais c'est fini, j'en ai marre, moi je laisse la maison et je fais autre chose. » Et c'est exactement ce qui se passait pour le peuple. Ils étaient là, ils étaient plein d'embûches. Et devant ces difficultés, Dieu leur dit simplement de se fortifier. Si vous voulez les détails de l'histoire, vous pouvez relire Esdras, chapitre 4 et chapitre 5. Et face aux difficultés, Dieu dit au peuple, fortifie-toi, résistez, continue à travailler. Et Dieu ne dit pas, fortifie-toi et va prendre des vacances au soleil. Fortifie-toi et profite d'une vie chrétienne paisible et abondante. Non, Dieu dit fortifie-toi et mets-toi à la tâche. Travaille, prends les choses de Dieu à cœur et au sérieux, accomplis ta tâche. Voilà ce que Dieu dit. Et tout cela, c'est encadré par une promesse. Et c'est là où ça devient intéressant. Dieu ne nous laisse pas seuls. Dieu ne nous laisse pas seuls. Et selon l'alliance du Sinaï, l'alliance de Moïse, Dieu était avec ce peuple-là, dans Agé. Il était avec eux. Et la promesse de Dieu, c'était d'être avec ce peuple. C'était conditionné par leur obéissance. Malheureusement, le peuple a désobéi, il y a eu l'exil, comme je vous ai expliqué. Mais Dieu, conformément à sa promesse, il ramène son peuple. Il ramène son peuple. Et c'est cette période de restauration qui s'ouvre. Restauration de la relation entre Dieu et son peuple, restauration du temple. Le temple, c'est rien d'autre que la présence de Dieu sur terre. Si le temple est reconstruit, hop, Dieu est avec son peuple, il y a une relation qui est restaurée entre Dieu et son peuple. Dieu n'a pas abandonné son peuple et il l'encourage dans sa tâche. Qu'en est-il de nous? Dieu n'est-il pas présent parmi nous? Dieu ne vit-il pas en nous par son esprit? Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu avec nous, n'a-t-il pas complètement rétabli cette relation avec Dieu en payant pour nos péchés? Comme nous l'avons chanté, l'amour de Dieu de loin surpasse tout ce qu'un homme peut imaginer. Parce que Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils pour que nous soyons rétablis, pour que notre relation puisse être rétablie avec Dieu. Alors, mes frères, mes sœurs, fortifions-nous et travaillons, car Dieu est avec nous. Et n'oublions pas que Dieu est avec nous. Vous connaissez sûrement Hudson Taylor, qui est l'un des missionnaires les plus connus de nos milieux. Mais cet homme est passé par des moments difficiles, vraiment difficiles. Donc il est parti en Chine, et à un moment donné, sa souffrance la plus dure, ça a été la perte, l'une de ses souffrances les plus dures, parce qu'il a aussi perdu sa fille, mais ça a été aussi la perte de son nouveau-né. Et à un moment donné, il écrit et il dit « Je suis acculé à travailler dur et souffrir seul. » Non pas seul, toutefois, car Dieu est plus proche de moi que jamais. Je suis affligé, mais pas abandonné. Jésus est ma vie et ma force, et son saint est mon saint lieu et mon lieu de repos, maintenant et pour toujours. Et il a continué son ministère qui a porté du fruit. Vous êtes là. Et il gardait toujours les yeux fixés vers son Seigneur. Grâce à ce genre de personnes qui sont parties, mais vraiment ont abandonné leur vie, qui sont partis dans des contrées lointaines, des nouveaux peuples ont pu entendre l'évangile. Pour ma part, c'est plutôt David Livingstone. Donc, fortifions-nous. Dieu est avec nous. Puis, Agé ne s'arrête pas là. Il continue et il donne une source de motivation supérieure au peuple. Il leur dit que Dieu est avec eux, ok, mais maintenant, il leur rappelle une chose. Et on va relire ensemble les versets 6 à 9. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Une fois encore, et dans peu de temps, je ferai trembler le ciel et la terre, la mer et le sec. Je ferai trembler toutes les nations. Les trésors de toutes les nations afflueront. Et je remplirai de gloire ce temple, dit l'Éternel, le maître de l'univers. L'argent m'appartient, l'or m'appartient, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. La gloire de ce dernier temple sera plus grande que celle du premier, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Dieu, troisièmement, Dieu te rappelle qu'il est à l'œuvre. Dieu te rappelle qu'il est à l'œuvre. Car au final, Dieu nous rappelle qu'il est lui-même à l'œuvre et nous devons regarder à lui. Et c'est là notre source de motivation. Dieu te rappelle qu'il est à l'œuvre. Comment est-ce qu'il le fait auprès de Zorobabel, auprès du peuple, auprès de Josué? En annonçant que dans les temps futurs, il créera un nouveau temple. Un temple dont la gloire va dépasser celle du premier, celle de Salomon, ou celle qu'ils sont en train de construire. Dieu annonce, premièrement, un jugement contre les nations qui ont exilé Israël, qui leur ont empêché de reconstruire le temple, contre les nations qui ont maintenu les ressources pour reconstruire les temples. Il annonce une décréation, un jugement. Il va faire trembler le ciel, la terre, une fois encore. Ça peut nous faire rappeler le déluge, là où Dieu a complètement tout renversé. Et Hébreux 12 nous parle de ce contexte de jugement en reprenant le texte. Et après, le jugement des nations, le renversement total de la terre, il parle d'une restauration. Ce nouveau temple, avec des trésors de toutes les nations, et un lieu de paix. Un lieu de paix. Et il invite Zorobabel et le peuple à regarder selon ses perspectives, sachant que leur travail, ce qu'ils sont en train de faire, n'est pas en vain. Ça ne sert pas à rien. C'est leur source de motivation, parce que le travail qu'ils sont en train de faire aura une récompense plus tard. Le travail qu'ils sont en train de faire n'est pas en vain, parce que ceux qui les empêchent de faire ce travail seront jugés plus tard. Et même si c'est difficile en ce moment, pour eux, plus tard, ils seront dans la paix du Seigneur. Dieu dit au peuple, allez-y, travaillez, travaillez pour moi, mettez-vous à l'œuvre, reconstruisez ce temple, faites-le, car votre travail n'est pas en vain. Et pour nous, qui sommes dans les derniers temps, Dieu nous motive exactement de la même manière. Il nous appelle à reconstruire ou à construire un temple, non pas physique, mais un temple spirituel. Car qui est-ce qui est le temple au final ? C'est quoi le temple de Dieu ? C'est qui le temple de Dieu ? C'est Jésus, le temple de Dieu, le temple glorieux. Jean 2, verset 19 à 21, je vais rapidement lire Jean 2, verset 19 à 21, où Jésus dit lui-même aux pharisiens, Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Et les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour construire ce temple, et toi en 3 jours tu le relèverais. » Cependant, lui parlait du temple de son corps. Jésus est le temple glorieux. C'est lui qui a apporté la paix entre nous et entre Dieu. Et Jésus est la présence même de Dieu sur la terre. C'est ça le temple. Et Jésus était la présence même de Dieu sur la terre. Et par extension, quand on est lié avec Jésus-Christ, l'Église, nous-mêmes, nous sommes le temple de Dieu sur terre, le temple, le peuple que Dieu s'est racheté par son sang. Éphésiens 2, Paul nous le dit, Éphésiens 2, versets 20 à 22. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et c'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Nous sommes le temple de Dieu, ensemble, en Église, et nous sommes le temple de Dieu de manière individuelle. C'est ce que Paul nous dit en 1 Corinthiens 6, lorsqu'il dit que vous êtes le temple de Dieu. Et la promesse que Dieu nous donne, c'est de vivre cette vie spirituelle en voulant vraiment édifier ce temple. La promesse que Dieu donne au temple, enfin que Dieu donne pardon au peuple, ne s'est pas réalisée pendant la vie de Zorobabel. Cette promesse, elle s'est réalisée, elle est pour nous. Elle s'est réalisée en partie lors de la première venue de Jésus, mais elle s'est réalisée complètement, elle va se réaliser complètement lorsque nous serons dans la gloire auprès du Père. Et c'est pourquoi nous devons fixer nos yeux sur la rédemption finale, sur le salut final, et c'est pour ça que nous devons maintenant nous mettre à l'œuvre. Et qu'est-ce que je dois faire alors ? Qu'est-ce que je dois faire ? Parce que pour Zorobabel, c'était simple. Il devait juste prendre des briques et les poser les unes sur les autres. Et alors pour nous, qu'est-ce que ça veut dire ? On va passer un petit moment pratique. Qu'est-ce que ça veut dire pour ça ? Qu'est-ce que ce texte peut dire pour nous ? Ben, comme eux, nous devons aussi poser des briques. Il y a une brique que nous devons poser et que nous avons souvent tendance à oublier. Il ne faut pas que nous oublions que Dieu est avec toi, que Dieu est avec nous. Si tu as cru que Jésus est ton Seigneur et Sauveur, mort pour tes péchés, Dieu est avec toi. Et c'est la première chose qu'on a tendance à oublier dans nos épreuves et dans nos difficultés. Je ne sais pas si vous avez déjà lu Le Voyage du Pèlerin. Il y a un moment, Le Voyage du Pèlerin, qui a été écrit par John Bunyan, raconte l'histoire d'un chrétien et de tout son périple spirituel. Et à un moment donné, le chrétien, il s'appelle le chrétien, s'endort et il perd son mémoire. Son mémoire, c'est sa Bible. Il reprend sa route, son chemin spirituel, et il passe devant une colline, la colline des épreuves. Et il est en très grande difficulté dans cette colline. Et il essaye de se rassurer, il essaye de retrouver son mémoire, sa Bible, mais il ne l'a plus. Elle est tombée quand il s'est endormi. Et du coup, il a oublié la chose essentielle. Il ne pouvait plus se rappeler que dans les moments difficiles, dans les moments d'épreuves et de lutte, Dieu est avec lui parce qu'il est en Jésus-Christ. On a souvent tendance, en fait, à oublier dans nos luttes et dans nos épreuves que Dieu est pour nous et Dieu est avec nous. Même lorsque je patine dans mon péché, même lorsque ma vie personnelle, spirituelle n'est pas au mieux, même lorsque je ne fais pas ce que je devrais faire, même lorsque je m'embourbe, même lorsque je chute et lorsque je tombe, on a tendance à croire que Dieu veut s'éloigner de nous. On a tendance à croire que Dieu ne veut pas être au contact de nous, que Dieu ne nous aime plus parce que nous avons péché. Et c'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est un mensonge car Dieu, par son alliance en Jésus-Christ, est toujours avec nous. Dieu est contre moi, un peu contre moi, dans mon péché, mais Dieu est pour moi dans ma lutte contre le péché. Dieu, dans son amour, comme on l'a chanté, me châtie. Il me relève, il me ramène et il me restaure parce que Dieu est avec moi. Et c'est ce qu'il est en train de faire au peuple d'Israël. Il va le restaurer. Il leur promet qu'il est avec eux. Et personnellement, ça m'encourage vraiment de savoir que Dieu est avec moi. Parce que même si je suis parti en Belgique faire des études en théologie, même si j'ai étudié la Bible pendant 10 mois d'affilée, il y a des moments où ça va pas, ça va moins bien. Il y a des moments où quand on rentre à la maison, quand on est en vacances, on n'a souvent rien à faire. Et quand on n'a rien à faire, on perd cette discipline de vie spirituelle. On peut être plus facilement tenté. On a plus du mal à résister. Et le diable en profite pour nous dire, voilà, t'es nul, Dieu ne t'aime pas, Dieu ne veut plus de toi. Et on se décourage, on est fatigué. On est fatigué, on a travaillé toute l'année et on veut juste se reposer. Mais par ce texte, au final, Dieu me rappelle qu'il est à l'œuvre, qu'il continue de travailler. Car au final, qu'est-ce que la vie chrétienne, si ce n'est Dieu qui est à l'œuvre? Et qu'est-ce que l'Église, si ce n'est Dieu qui est à l'œuvre? Dieu est à l'œuvre et il m'encourage. Et il me dit, et il nous dit, cet après-midi, de nous relever, de nous fortifier en lui, nous rappelant qu'il est avec lui, qu'il est avec nous, pardon. Il est avec nous à cause de Jésus-Christ, et qu'il est pour nous. Et il nous donne les forces, il est avec nous, à côté de nous, pour que nous puissions ensemble avancer sur ce chemin, ensemble lutter contre le péché, ensemble évangéliser, et ensemble nous édifier les uns les autres. Ensemble, parce que Dieu est avec nous. Dieu t'appelle à te fortifier et à te mettre à l'œuvre en comptant sur sa présence, sachant qu'un jour, tu entreras dans sa joie et dans sa paix. Et c'est là notre motivation. N'oublions jamais, n'oublie jamais qu'un jour, tu seras dans la gloire de Dieu et qu'aujourd'hui, maintenant, c'est le travail. C'est lutter ensemble, c'est prier ensemble, c'est évangéliser ensemble. peut-être passer un petit moment à réfléchir par rapport à ce que la Bible vient nous dire. Un moment de silence où on peut considérer notre vie, faire un constat dans notre vie. Et au lieu de faire un constat d'échec, nous rappeler que Dieu nous fortifie, que Dieu est avec nous, pour justement dépasser cet échec et continuer à vivre dans le Seigneur et à lutter dans cette vie présente. Passons juste un petit moment et je finirai par prier. Oui, Père éternel, tu nous rappelles que tu es avec nous et tu nous demandes de nous fortifier. Tu nous demandes, Seigneur, de ne pas nous décourager, de ne pas nous décourager dans cette vie chrétienne avec ses luttes, mais de te faire confiance et de compter sur toi, sur ta présence. Et Seigneur, nous avons tendance à oublier que tu es présent au milieu de nous. Nous avons tendance à l'oublier à cause de ce monde physique. Et malgré cela, tu nous rappelles, tu nous conduis et tu nous ramènes vers toi et tu nous restaures comme tu as restauré ton peuple d'Israël. Tu nous restaures et tu veux que nous nous mettions à la tâche. Tu ne veux pas, Seigneur, que nous soyons oisifs, que nous soyons paresseux, que nous soyons attentistes. Mais tu nous demandes de faire des efforts et de nous mettre à l'œuvre. Et Seigneur, nous te prions pour que tu sois à l'œuvre dans nos vies et pour que nous, dans nos vies, nous puissions être à l'œuvre. Que nous puissions être à l'œuvre ici, à Saint-Maur. Nous puissions être à l'œuvre au niveau de l'évangélisation. Avoir un cœur pour toucher cette ville. Avoir un cœur pour toucher nos amis, notre famille, sachant que tu nous devances dans cette œuvre-là, que tu es au-devant de nous et que toi-même tu es à l'œuvre. Oui Seigneur, nous te demandons que nous puissions prendre exemple sur toi, sur l'œuvre de ton Fils à la croix, qui a vécu une vie d'humilité, de souffrance et qui est maintenant auprès de toi, dans ta gloire. Et Seigneur, nous te demandons que cette espérance soit fermement attachée dans notre cœur, qu'un jour, nous te verrons. Et c'est pour cela que nous devons dès maintenant nous fortifier et nous mettre à l'œuvre. Au nom de Jésus. Amen.